France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Cette semaine encore nous réserve de belles surprises et des découvertes qui apportent, comme chaque semaine, des solutions à nos besoins de mieux communiquer, mieux vivre ensemble ou mieux construire collectivement. Le premier exemple extrait des initiatives prise dans l'Yonne, fil rouge de la semaine, est édifiant. Écoutez bien, des habitants d'un territoire rural ignoré par les fournisseurs d'accès en haut débit ont décidé de créer leur propre réseau Internet sous forme de société coopérative. Ensuite, nous appellerons un jeune futur ingénieur qui, dans le cadre de sa formation, réalise en ce moment un prototype de ferme hydroponique en conteneur maritime.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Bruno Spiekel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des membres de la SCANI. Alors, c'est une société coopérative d'aménagement numérique iconaise. Votre SCANI est une SIC depuis 2016. Et normalement, quand on habite des zones rurales, quel que soit le département, là où les grands opérateurs ne veulent plus intervenir, ne veulent pas intervenir parce que c'est pas assez lucratif, ce sont les départements et les collectivités territoriales qui prennent le relais.
Le département finance, ou la puissance publique au sens large, parce que c'est pas que les départements qui font ça, finance en fait des opérateurs privés pour faire le travail que eux ne veulent pas faire avec leur propre argent.
C'est quand même incroyable parce qu'on nous promet, et chez vous c'est le cas, 100% de fibres d'ici 2023, et vous vous dites, ça m'étonnerait qu'on atteigne cet objectif.
Alors non seulement ça m'étonnerait, mais en plus on a la certitude que ce ne sera pas le cas, ne serait-ce que parce qu'on a discuté avec les gens qui sont en charge du dossier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 100%, c'est un joli chiffre tout rond, etc., mais ne serait-ce que le téléphone ou l'électricité n'arrive pas à 100% partout, donc la fibre n'y arrivera pas non plus. Et en prime, certains sites sont déjà considérés comme étant des sites isolés et sont exclus de ce comptage. Typiquement, une ferme au milieu d'un champ ou un petit hameau avec trois maisons perdues au fin fond d'une colline n'aura pas de fibre en 2023 ni en 2024. On s'attend plutôt à des délais du type 2030 ou 2040 pour ces endroits-là, sachant que l'objectif n'a pas été la fibre pour 100%, mais un accès très haut débit pour 100%.
Alors, vous, la solution, c'est de multiplier des antennes Wi-Fi.
Alors nous, notre solution, c'est de faire de l'humain d'abord et de faire travailler les gens qui savent mieux. Donc on prend typiquement des gens comme moi, où je suis pas trop mauvais en technique, on prend des gens locaux autour de chez nous qui connaissent bien les environs et les gens qui sont là, et on prend des gens qui ont envie d'avoir une connexion et qui ont envie de mettre un peu les mains à la pâte pour le faire. Mmh. Et en faisant la réunion de ces trois typologie de personnes-là, eh ben on arrive à fabriquer du réseau. Effectivement, le plus souvent encore aujourd'hui, en multipliant des toutes petites antennes Wi-Fi qui coûtent pas très cher, mais qui permettent de contourner les obstacles et arriver aux endroits où on a besoin d'arriver. C'est pas pour autant qu'on veut pas non plus faire de la fibre, et on est d'ailleurs en train de s'y intéresser plus que de raison ces temps-ci.
Ouais. C'est quand même malheureux de se dire qu'il y a des objectifs, mais c'est pas le seul cas, hein. Des objectifs globaux portés par les collectivités locales, territoriales, et que finalement, on n'arrive pas à avoir une couverture complète, et ce sont quand même des organismes comme le vôtre, une coopérative qui est très citoyenne, qui apporte sa solution.
C'est l'ennui de tout ce qui est réseau. On aurait pu repartir comme dans les années 60-70 avec un grand plan de déploiement du téléphone. À l'époque, ça s'appelait Delta LP. Et c'est ça qui a permis en 10-15 ans d'amener une ligne de téléphone presque partout. Mais c'est plus dans les radars politiques aujourd'hui. Le télécom n'est pas considéré comme l'eau ou comme l'électricité aujourd'hui. C'est quelque chose de privé. C'est pas un service vital. Alors, dans plein de cas, c'est un service vital. Quand il faut pouvoir joindre les services d'urgence, c'est un service vital. Quand il faut pouvoir monter un centre de vaccination et prendre des rendez-vous, c'est un service vital. Mais pour le commun des mortels, c'est pas un service vital, et du coup, l'organisation politique n'est pas faite comme ça.
Alors, le bateau, c'est la société coopérative d'intérêt collectif de la SCANI, avec une participation, non pas des clients, mais qui sont des sociétaires, avec un investissement minimum de 10 euros dans la coopérative, et ensuite un abonnement à 30 euros par mois. Et grâce à ça, on a quelle hauteur de débit ?
On a le débit qu'on arrive à fournir, c'est-à-dire qu'on n'a pas imposé de limitation relation quelconque. Donc les membres qui sont très proches d'une sortie avec un très gros tuyau vont peut-être avoir du 100 mégas, voire du 200 ou du 300 mégas. Donc d'un point de vue sensation, en termes d'utilisation, ça revient à de la fibre. Les plus éloignés, aujourd'hui, je crois qu'on s'est mis une limite en dessous de laquelle on n'installe pas. C'est-à-dire que si la personne aura moins de 10 mégas, on le fait pas, sauf si vraiment elle insiste très fort et qu'elle comprend bien ce vers quoi elle se dirige. Mais c'est un réseau qui vit dans le temps, c'est-à-dire que plus on arrive à avoir d'abonnés sur un secteur et de membres qui s'y activent, bah plus il va s'y passer des choses et plus on a une probabilité d'arriver à ramener un tuyau avec beaucoup plus de débit parce qu'on aura plus de budget pour le faire.
Et là, Bruno, vous vous attaquez donc à la fibre optique ?
Alors, on fait déjà, nous, de la fibre optique depuis 10 ans pour les besoins internes du réseau et on a quelques sites qui sont connectés en fibre depuis très longtemps sur le réseau. On essaye maintenant de l'amener un peu plus loin et puis surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la collectivité qui investit pour créer des réseaux optiques dans les campagnes. Et à ce titre-là, on est théoriquement en droit de l'exploiter comme n'importe quel autre opérateur. Alors il se trouve que ça reste de la théorie puisque dans la pratique, le fait qu'on soit une coopérative et une toute petite structure met pas mal de barrières à l'entrée puisqu'il y a énormément de processus administratifs à suivre et de choses comme ça qui nous paraissent totalement délirants, mais qu'on comprend bien dans leur essence et dans leur existence. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais les endroits où le département est aujourd'hui en train d'investir, Scani fournira de la fibre à ces endroits-là, en même temps que tous les autres opérateurs pourront le faire. La petite différence étant que la fibre qui s'arrêtera à la sortie du village et qui n'ira pas dans le hameau isolé, nous on va s'en servir pour ramener le débit dans le hameau isolé avec nos petites antennes derrière.
Le site c'est Scani, scani.fr pour l'adresse. Merci, bon courage Bruno.
Merci à vous, au revoir.
France Inter, carnet de campagne.
Le courrier de Philippe nous a intrigués, en effet. Il nous fait part de travaux de réhabilitation complète d'un vieux cargo à voile de deux mâts construit en 1935 en Norvège. Il s'appelle la Willa ou la Villa, H-A-W-I-L-A. Ce navire qui transporta de la marchandise a été converti en 1978 en navire école avant d'être abandonné, sauvé de la démolition par l'association The Awila Project, préfiguration de la société coopérative en cours d'élaboration. Le navire sera la propriété de l'association, des personnes qui y travaillent en ce moment à sa reconstruction ou qui seront employées, et aux sociétaires qui apporteront leur contribution à sa nouvelle vie. Le navire aura deux missions, l'une de transporter des marchandises et des produits biologiques et équitables entre les Caraïbes et l'Europe durant en particulier la période hivernale, et puis la seconde de retrouver sa fonction de navire école durant les beaux jours. Des activités estivales sont également prévues pour faire de ce deux mâts de 35 mètres de long une plateforme culturelle et éducative axée sur les questions environnementales. Les travaux sont vraiment impressionnants pour la restauration de ce beau bâtiment. Ils sont mis en ligne sur le site de l'association awila.org. Allez voir, c'est impressionnant. Et les sociétaires bénéficieront de réservations prioritaires pour naviguer à bord et charger du cargo. Tom Lemaine, bonjour.
Bonjour.
On va à Angoulême avec vous, mais quand j'entends Le Maine, je me dis ça, c'est un nom breton.
Exactement, ouais. Moi, je viens de Vannes pour être précis, mais bon, je me suis expatrié à Angoulême pour faire mes études.
Ouais, et à l'école d'ingénieurs, saisie d'Angoulême, avec Julia, Arnaud, Samuel et Jules, vous êtes lancés dans la réalisation d'un prototype. J'avais évoqué il y a quelques semaines votre prototype. Ça paraît complètement insensé. Vous aussi, vous êtes attaché au conteneur maritime, mais pour le transformer en ferme hydroponique autonome.
Pour faire court, en gros, c'était un projet de fin d'études. Du coup, aujourd'hui, on cherche à l'adapter, en tout cas pour les patates douces, parce que c'est aussi un aliment très nutritif qui est consommé partout dans le monde. Et avec ça, on aimerait bien associer aussi un élevage de vers de farine.
Tom, vu la taille d'un conteneur, qu'est-ce qu'on peut faire dedans ? C'est petit.
C'est assez petit. Après, nous, avec notre prototype, du coup, on a des objectifs, on va dire assez élevés, hein, de 80 kilos patates douces, en tout cas en un an, et de 20 kilos de verte farine. Alors là, c'est dans notre prototype, hein, c'est afin d'essayer, mais on aimerait bien utiliser ce prototype justement pour augmenter ses rendements, voir si on ne peut pas faire plus.
Parce que, pour expliquer, l'hydroponie nécessite un réseau d'eau.
Exactement. L'hydroponie, c'est faire pousser les légumes, en résumé, dans l'eau. On peut se servir, par exemple, nous, ce qu'on pense faire, en tout cas, ça serait se servir d'un compost et en faire un thé. Et du coup, de ce thé, on en tirerait les nutriments nécessaires au développement des plantes.
Ce que je me disais, vu la taille d'un conteneur maritime, c'est la possibilité d'utiliser la hauteur du conteneur pour faire plusieurs étages. Mais avec le système d'hydroponie, c'est pas possible.
Si, c'est tout à fait possible. Mmh. C'est pour ça aussi qu'on cherche à être actif sur les réseaux, c'est justement montrer que toutes ces technologies sont accessibles à chacun et qu'en fait, c'est peut-être pas forcément aussi compliqué que ce qu'on pourrait penser.
Bon, vous en êtes où du prototype aujourd'hui ?
Là, on en est encore à la recherche de partenaires, même si on a bien avancé. On aimerait bien là faire un partenariat avec un BTS d'électronique, entre autres, pour qu'il s'occupe de l'électronique et de l'automatisme dans le prototype. Et après, on pourra commencer tout ce qui sera du coup expérience et mise en application de nos procédures d'élevage et de culture.
Ouais. Vous avez chiffré le coût d'une ferme en hydroponie dans ce type de conteneur ?
Alors oui, on l'a chiffré. On a chiffré approximativement, du coup, tout compris, hein, on a chiffré à 30 000 euros un projet tel que celui-ci. Du coup, on pense au développement, un coût matériel, le coût de la main-d'œuvre pour le mettre en place, les pièces de remplacement, bien sûr. Mais après, pour le prototype, on est sur des budgets beaucoup moindres parce qu'on fait appel à des dons, aux gens qui nous aident beaucoup d'ailleurs, à des banques, à d'autres entreprises qui pourraient nous donner ou nous prêter du matériel. D'ailleurs, il y en a déjà beaucoup qui ont répondu présent.
Lorsque vous allez développer à partir de ce prototype d'autres fermes, vous allez être obligé de trouver de nouveaux partenaires, obligatoirement.
Oui, bien sûr. On a déjà fait un partenariat du coup avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, du coup qu'on n'a pas encore officialisé sur nos réseaux. Vous l'avez en avant-première, hein, qui nous a donner un généreux chèque afin de pouvoir finir notre prototype. Du coup, oui, bien sûr qu'on a ses partenaires financiers aussi. Mais là, pour le moment, voilà, on reste dans cette optique déjà de finir le prototype,
bien sûr,
de le prouver. Et derrière, on s'en servira, pourquoi pas, pour chercher justement d'autres investisseurs.
Voilà, les jeunes ingénieurs qui pensent à la solidarité et à la cause de la l'alimentation dans le monde, et en particulier là où parfois il est difficile de pouvoir trouver une autonomie alimentaire, avec cette ferme hydroponique autonome en conteneur maritime. Le site, c'est Container&Co pour la page Facebook, et il y a la plateforme Hello Asso, si on peut suivre l'évolution et participer aussi à la constitution définitive de ce prototype. Bonne route pour la suite, Tom.
Merci beaucoup, monsieur.
Je ne sais pas si on peut encore parler de coup de pouce avec l'appel lancé par Bruno, que nous avons reçu. Bruno, habitant de la vallée du Grésivaudan en Isère, où on sera dans les semaines à venir, vient de mettre en ligne une cagnotte pour reconstruire une bonne partie du funiculaire de Saint-Hilaire. C'est un ouvrage historique qui transporte chaque année 50 000 personnes vers les hauteurs, offrant d'ailleurs une vue imprenable sur le Mont Blanc, et qui est un lieu, c'est le paradis des parapentistes, dit-on là-bas. Fin décembre de l'année dernière, des trombes d'eau ont enseveli une bonne partie de la gare inférieure et détruit des portions de rails. Une première estimation des travaux prescrit une enveloppe de 4,5 millions d'euros. Alors la cagnotte de Bruno fait un peu petit à côté, mais elle pourrait être une petite contribution à ce budget colossal. On vous met en lien sur notre page Facebook d'émission des carnets de campagne et sur la page aussi sur franceinter.fr, le lien avec ce sauvetage du funiculaire de Saint-Hilaire. Et puis avant de rejoindre Nicolas Toufflet dans Lyon, je rappelle que les prochaines semaines, nous traverserons la Seine-et-Marne, l'Isère, l'Ain, la Drôme. Merci de nous écrire depuis ces départements et aussi de tous les autres départements, puisqu'on prend de partout les bonnes nouvelles. Nicolas Toufflet est à Sergine dans Lyon.